Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la présentation, Blaise Shindani Kambala. Mais d'abord, le titre de ce journal. Un ancien candidat gouverneur de Kinshasa alerte sur l'insalubrité qui étouffe la capitale congolaise avec des conséquences graves si rien n'est fait. Serge Ntikum Anza tire la sonnette d'alarme dans une tribune parvenue à la rédaction de la radio Kapi ce matin en proposant une solution axée sur 6 points. Des combats violents opposent ce mercredi les rebelles de M23 AFC RDF au Wazalendo dans le village de Kamakombe au sud Kivu. Ces affrontements constituent une nouvelle violation de l'accord des principes signé à Doha entre une délégation du gouvernement congolais et la rébellion M23 AFC RDF. Notre invité, c'est Maître Shadrach Moukad, coordonnateur provincial de la société civile du Lualaba. Parlant de l'encadrement de 15 heures artisanaux dans cette province, il a le sentiment que ces exploitants miniers artisanaux sont souvent négligés par les autorités. Mesdames, Messieurs, bon après-midi à tous. La ville de Kinshasa, suffoquée par des déchets, est folle la catastrophe d'ici les prochaines pluies si des mesures ne sont pas prises maintenant. Cette sonnette d'alarme est de Serge Ntikum Anza qui fustige l'échec du gouvernement de Kinshasa. Dans sa tribune parvenue ce matin à la radio Kapi, l'ancien candidat gouverneur de la capitale estime qu'il est encore possible de rendre Kinshasa plus salubre grâce à une stratégie axée sur 6 points. Les papiers de Michel Kifindangoy rendus par Grâce Amzati Masanzi.
À en croire Serge Ntikum Anza, Kinshasa suffoque sous les déchets. Rues, rivières, caniveaux, tout est envahi. L'ancien candidat gouverneur tire la sonnette d'alarme et dénonce un double échec, celui du civisme citoyen et de la gouvernance environnementale, transformant la capitale en dépotoir à ciel ouvert avec des conséquences graves sur la santé. Mais Kinshasa n'est pas condamné. Inspiré par des villes comme Paris, Dakar ou Abidjan qui ont réussi leur transformation, Serge Ntikum propose un plan ambitieux en 6 axes. Une agence métropolitaine de gestion des déchets, une collecte sélective, le recyclage et une participation citoyenne forte. Le financement serait assuré par une nouvelle fiscalité d'assainissement, équitable et transparente, complétée par des partenariats. Il insiste aussi sur l'urgence de renforcer la législation, notamment sur les sachets plastiques, et d'adopter un édit provincial sur la gestion des déchets. L'insalubrité est une crise silencieuse, mais mortelle qui nuit à la dignité humaine, ajoute Serge Ntikum qui appelle à une mobilisation générale. Il plaide pour une action immédiate avant le retour de la pluie pour une ville de Kinshasa propre et vivable.
Pendant ce temps, dans le territoire des Beni au nord Kivu, au moins 5000 ménages du quartier Congo Yasika, situé dans la cité frontalière de Kasindi-Lubiria, à 90 km de la ville de Beni, seront bientôt alimentés en eau potable. Cela mettra fin à plus de 3 années de souffrance pour ces habitants qui avaient difficilement accès à une eau de qualité. Le projet d'adduction d'eau, comprenant notamment la construction de 20 bornes fontaines et des citernes de stockage a été lancé le week-end dernier. Il est porté par un consortium de 4 organisations non gouvernementales actives dans les domaines de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Le comité international de la Croix-Rouge, Tirfong, Mavuno et World Vision. Un soulagement pour la population locale, comme l'explique Paul Zaidi, premier rapporteur de la société civile de Kasindi-Lubiria, au téléphone de Marc Marofimbo.
Le quartier Congo Yasika de Kasindi-Lubiria n'a jamais bénéficié d'un quelconque projet d'adduction d'eau potable. Certaines bornes fontaines qu'avait creusées la population produisaient de l'eau salée. Du coup, la population effectuait de longues distances pour la recherche de l'eau potable. Les gens se contentaient des eaux de la rivière Lubiria pour les travaux de ménage. Nous saluons le partenariat du gouvernement congolais avec les organisations humanitaires qui œuvrent dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement pour ces projets salutaires pour la vie de la population de Congo Yasika, car plus de 5000 ménages de ce quartier avaient souffert pour avoir de l'eau potable. Nous disons aussi merci pour tous ceux-là qui ont fait des plaidoyers pour la réussite de ces projets. Voilà qu'aujourd'hui, l'eau coule dans le quartier Congo Yasika au profit des milliers de gens. C'est un projet salutaire de la part de ces organisations humanitaires pour donner une autre assurance de vie aux habitants de ces quartiers.
Selon des sources proches du consortium des ONG, 10 bornes fontaines sont déjà disponibles et les travaux devraient être achevés d'ici décembre. Nous le disions en titre, des combats violents opposent ce mercredi les rebelles du M23 AFC-RDF au Ouazalendo dans le village de Kamakombe situé dans les territoires de Kabare au sud Kivu, occasionnant une paralysie des activités. Ronelyne Tibonera pour les détails.
Ces affrontements ont débuté mardi dans le village de Mbayo, dont le groupement Bougoré, suite à un renforcement de troupes du M23 AFC-RDF. Selon nos sources locales, leurs renforts sont partis de l'aéroport de Kavumu pour attaquer les éléments du mouvement décisif de la libération du Congo MDLC, RAD-RDC, en groupe Ouazalendo actif dans cette zone. L'information a été confirmée par plusieurs sources de la société civile de la région. Elles indiquent qu'après une journée marquée par des attaques et contre-attaques, le M23 AFC a décidé mercredi matin d'expulser les mouvements concurrents. Ces affrontements constituent une nouvelle violation de l'accord de principe signé à Doha entre une délégation du gouvernement congolais et la rébellion du M23 AFC-RDF. Alors que les deux parties s'étaient engagées à respecter un cessez-le-feu, plusieurs analystes locaux dénoncent une violation délibérée de cet engagement par les rebelles du M23 AFC-RDF.
Cependant, au Nord Kivu, le programme des Nations Unies pour le développement a lancé ce mercredi la mise en œuvre de ses projets du plan de réponse à la crise sécuritaire et humanitaire au Nord et au Sud Kivu. Ce lancement a eu lieu au cours d'un atelier de 2 jours qui réunit à Goma une centaine de personnes, dont une cinquantaine de délégués d'organisations locales partenaires aux projets venus de 2 provinces. Selon le chef du bureau terrain du PNUD à Goma, ces projets d'un budget d'environ 25 millions de dollars pour 6 mois, ciblent les personnes affectées par la guerre dans la région. Ce sont entre autres les déplacés et retournés. Suivons à ce sujet les propos de Patrick d'Oliveira.
Ce plan a été élaboré pour appuyer surtout le retour des déplacés, plus ou moins forcés, parce que n'ayant pas été bien préparés, et les accompagner avec un minimum de dignité pour se reconstruire et se réinstaller dans leur communauté d'origine. Et pour ceux qui sont, pour une raison ou une autre, au niveau des communautés hôtes, de se retrouver avec ces communautés hôtes. Donc il s'agira globalement de travailler d'abord sur une cohabitation pacifique entre ces retournés et les communautés qui les a accueillis, de travailler aussi sur la question de protection, de violence, faites aux déplacés surtout et beaucoup plus aux femmes. Donc notre plan de réponse à la crise a mis aussi un accent sur comment aider ces gens à retrouver ne serait-ce qu'un abri durable ou semi-durable. Donc nous visons aussi quelques infrastructures socio-communautaires de base, surtout les maisons des femmes par exemple, pour permettre que les collectivités puissent redémarrer, qu'ils relancent un certain nombre de filières sur lesquelles ils étaient en train de travailler avant que la crise n'arrive.
Revenons encore une fois à Kinshasa. Le Conseil national de suivi de l'accord de Saint-Sylvestre et du processus électoral recommande au gouvernement de sursoir le procès en cours contre le président honoraire Joseph Kabila. Réuni hier mardi en session ordinaire hebdomadaire sous la présidence de Joseph Olengankoy, le CNSA juge cette procédure judiciaire d'inopportune est susceptible de à bloquer toute tentative de réconciliation de paix et d'alternance pacifique en RDC. Le CNSA souligne sa préoccupation sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC et les processus de réconciliation nationale, notamment marqués par les massacres des Komanda et la question du procès de l'ancien président Joseph Kabila. Michel Kifindangoy.
Sous la présidence de Joseph Olengankoy, le CENSA examine la réconciliation nationale et les pourparlers de Doha. Il exprime son amertume face au recul de l'espoir né en 2019, marqué par l'intolérance, la restriction des libertés, le déplacement des populations et la résurgence des groupes armés. Dans ce contexte, le CENSA juge inopportune l'ouverture du procès contre l'ancien président Joseph Kabila, craignant une fracture de la nation et un éloignement du dialogue national inclusif. Le Conseil recommande de sursoir à ce procès, suggérant que ces questions soient abordées lors du dialogue national pour l'intérêt supérieur de la nation. Le CENSA insiste sur l'importance pour le président actuel et l'ancien président de dépasser leurs divergences pour le bien de la population et des futures alternances politiques. La plénière du CENSA invite à son président de prendre les dispositions nécessaires pour le rapprochement entre Kinshasa et Goma. Concernant le pourparlers de Doha, le CENSA recommande la présence d'observateurs, notamment des délégués de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la société civile, pour garantir la transparence et la fidélité des conclusions.
En plus bref, ouverture hier mardi de la 6e conférence mondiale des présidents des parlements à Genève en Suisse. Elle est axée autour du thème « Le monde dans la tourmente, coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous ». En collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, ONU, cette rencontre quinquennale réunit les présidents des chambres parlementaires des pays membres des Nations Unies. La République démocratique du Congo est représentée à ses assises par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné d'une délégation composée des députés nationaux et des sénateurs. Le discours de Vital Kamerhe est attendu ce mercredi 30 juillet lors de la 2e journée des travaux. Signalons que l'enjeu majeur pour la RDC à cette conférence de Genève reste la promotion du processus de paix en cours, notamment l'accord signé entre la RDC et le Rwanda à Washington le 27 juin dernier. Former les jeunes aux techniques de détection des fausses informations et les outiller pour promouvoir une information fiable et constructive. C'est l'objectif d'un atelier tenu hier mardi à Kinshasa. Ces travaux sont organisés par le Centre Carter en partenariat avec l'Observatoire congolais sur la gouvernance locale à travers son programme Maison des droits de l'homme. Reportage Carole Mbouyou et Josué Kefebe.
Pour Marie-Joséphine Tchaïkolo Mbété, manager du programme Maison des droits de l'homme, cette initiative vise à renforcer l'esprit critique des jeunes, également à contrer la désinformation vu la montée des rumeurs et des manipulations en ligne, ainsi que des nombreux conflits en cours sur le territoire congolais.
Son traiteur a décidé de mettre en place ce fonds afin d'outiller les jeunes et donner des formations, équipements, afin de permettre aux jeunes de détecter la mauvaise information et réduire la manipulation.
Le coordonnateur du Conseil national de la jeunesse, Samy Wetu, salue cette initiative qui vient renforcer les capacités des jeunes.
C'est un très bon projet. Il était temps qu'il y ait des leaders de jeunes qui réfléchissent comment lutter contre ces fléaux qui gangrènent notre milieu.
Au nom des organisations de jeunes, Divine Landou, leur communicatrice, souhaite que ce projet touche aussi les jeunes vivant dans la périphérie.
Nous qui habitons dans les périphéries, nous n'avons pas des sources fiables d'informations. Ce projet est innovant, il touche le cœur même des mots du Congo.
Des séries de formations seront organisées pour les jeunes sur la communication non violente, le leadership ainsi que la pensée critique.
Peut-être la fin ou plutôt la diminution des accidents de circulation sur certaines routes de Kinshasa. Nous en voulons pour preuve l'implantation depuis hier mardi des panneaux de signalisation au niveau du rond-point Kintambo Magasin. Le patron de la Commission nationale de prévention routière, Bienvenue Mouniasubi Mutombo, a personnellement présidé cette cérémonie. Reportage de Lucky Nzaou et Josué Kefebe qui ont assisté à cette cérémonie.
Cette opération fait suite à la destruction et à la détérioration des panneaux de signalisation précédemment installés par ces mêmes services techniques attachés au ministère des Transports, Voies de communication et des désenclavements de la République démocratique du Congo. Cette phase lancée au rond-point Kitambo Magasin est la première d'une série d'implantations d'autres panneaux qui vont se poursuivre sur d'autres tronçons, en croire le président de la CNPR, Bienvenue Mouniasubi.
Nous avons lancé une phase d'implantation de panneaux sur Kitambo Magasin en prolongement jusqu'à la gare centrale et de Kitambo Magasin jusqu'à Lupen, et nous allons poursuivre toujours dans la même phase du rond-point Mandela jusqu'à Molar à Bandalungwa.
Ces panneaux servent à faire parler les codes de la route, a rappelé le président de la CNPR qui a indiqué avoir lancé cette opération à Kitambo Magasin parce que ces points constituent la porte de la ville.
Magasin Kitambo est à la porte de la ville. Pour cette phase, nous voulons en finir d'abord avec le panneau de signalisation sur tous les boulevards Mondjiba et aussi les boulevards du 30 juin. Après prendre Ngouma jusqu'à Lupen.
Le numéro 1 de ces services a enfin appelé la population à respecter ces panneaux sous peine d'être sanctionnés.
Avant d'aller plus loin, sachez
que plus de 8 millions de dollars seront débloqués d'ici mi-août pour appuyer une partie de la dette sociale de la société minière de Bakwanga en faveur des 1047 retraités de la MIBA. C'est dans ce cadre qu'un protocole d'accord entre l'État, la Caisse nationale de sécurité sociale et la société minière a été conclu et signé sous les auspices du ministre des Finances mardi 29 juillet dernier dans le bureau du ministère des Finances à Kinshasa. Jean-Marc Matois qui nous donne les grandes lignes de ce processus qui s'inscrit dans le cadre de la relance de la MIBA.
Conformément à la décision prise lors du Conseil des ministres du 28 août 2024, le processus de la relance, la MIBA entame sa vitesse de croisière avec la signature de ses protocoles. Comme l'explique ici Madame Joëlle Kabenamumba, coordonnatrice de l'unité de gestion du projet d'appui financier de l'État pour la relance, la MIBA, UGP MIBA.
Pour la première fois, depuis plusieurs années, une dynamique concrète a engagé autour d'un enjeu humain et social majeur, la prise en charge effective des retraités de la MIBA. Et ceci marque un très grand pas dans le cadre de la relance de la MIBA. Grâce à l'appui du gouvernement, la première tranche de 8,9 millions de dollars sera versée dans la semaine qui vient pour couvrir la situation de 1047 retraités entre 2018 à 2024.
Les principaux bénéficiaires de ces processus, à savoir les retraités de la MIBA, ne cachent pas leur joie. Leur représentant, Donna Katumbi, a pris part à ces travaux de la commission mixte.
C'est une joie immense d'abord, puisque nous sommes restés dans l'impayement de 2017 jusqu'à ces jours.
Et pour sa part, le coordonnateur du ministère des Finances, Clavin Kabamba, s'est réjoui de voir cette commission mixte mise en place par le ministre des Finances, Doudou Fouamba, marquer les points avec des résultats concrets.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, après avoir été élu en 2010, en 2015 et en 2020, Alassane Ouattara est en lice pour un quatrième mandat. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, a-t-il annoncé ce mardi sur les réseaux sociaux.
L'invité.
Notre invité, c'est Maître Shadrach Moukad, coordonnateur provincial de la société civile du Lualaba. Il revient sur la problématique de l'encadrement des centaines de milliers de creuseurs artisanaux dans cette province. Selon lui, ces exploitants miniers artisanaux sont souvent négligés par les autorités. Maître Shadrach Moukad répond aux questions de Paulin Munanga.
Maître Shadrach Moukad, bonjour.
Bonjour Monsieur Paulin.
La gestion des creuseurs artisanaux dans la province du Lualaba est un grand défi. Dites-nous tout d'abord, à combien peut-on évaluer le nombre des creuseurs artisanaux dans la province du Lualaba?
Le nombre de creuseurs dans la province du Lualaba, c'est un nombre qui n'est pas précis, mais selon les estimations et les statistiques que donne le gouvernement provincial à travers son service spécialisé qui est le SAEMAP, on estime à plus de 200 000 exploitants miniers artisanaux disséminés dans différents sites dans la province, et particulièrement à Kolwezi, Fungurume, et ce sont les deux endroits qui sont les bastions de l'exploitation minière artisanale dans notre province.
Et il y a actuellement combien de sites miniers artisanaux qui sont exploités par ces creuseurs?
Pour dire vrai, notre province connaît un grand défi dans le domaine d'avoir des sites officiels d'exploitation artisanale. Ces sites officiels que j'ai dit, ce sont les zones d'exploitation artisanale appelées ZEA. Et jusqu'à aujourd'hui, l'État congolais a déterminé quelques collines qui sont appelées zones d'exploitation, mais qui ne sont pas viables ou accessibles. C'est pour cette raison que beaucoup de creuseurs aujourd'hui se trouvent sur des sites appartenant aux concessions minières privées et d'autres sites qu'on appelle les sites tampons. C'est-à-dire, site tampon, on appelle autrement zone tolérée. Ça veut dire, ça appartient à un concessionnaire, mais qui tolère, qui a une permissivité, mais ils n'y sont pas de manière légale, parce que c'est un bien privé, alors que les creuseurs artisanaux devaient être installés sur des sites que l'État leur a préparés et leur a accordés.
Dans quelles conditions travaillent ces creuseurs sur ces sites?
Les creuseurs qui sont encadrés, parce que la loi interdit le travail individuel ou en solo, les creuseurs devraient se retrouver au sein des coopératives, et il y en a plusieurs. Et nous saluons les coopératives qui existent au Lualaba. La plupart sont bien formalisées et travaillent en accompagnant les creuseurs, en leur dotant des outils de protection personnelle, de bottes, de tenues, des casques ainsi que de masques pour certains.
Qu'est-ce qu'ils exploitent principalement?
Les minerais exploités, c'est du cuivre et cobalt.
Souvent, ces creuseurs sont soit délocalisés ou déguerpis des forces, ce qui provoque parfois des émeutes. Peut-on dire que les gouvernements négligent cette couche de la population au profit des exploitants industriels, donc des entreprises minières?
C'est ce que dénoncent nous qui sommes organisation de la société civile. L'État congolais devait comprendre que le secteur minier artisanal, c'est vraiment un secteur qui occupe des centaines de milliers de jeunes congolais. Aujourd'hui, l'État n'a pas réussi à donner de l'emploi à tous les Congolais, mais il y a un secteur qui essaye d'occuper ces jeunes. Lorsqu'ils ne sont pas occupés, nous vivons la hausse des criminalités dans nos villes et dans nos villages même. Ces creusets permettent aussi à renflouer ou à améliorer le panier de la ménagère. Et vous entendrez, ils vous disent, ils contribuent largement au social de leur famille. Donc l'État devait prendre conscience qu'il faille les aider. Malheureusement, c'est à partir de Kinshasa où tous les espaces miniers sont vendus aux industriels, sont vendus aux Chinois. Et plus grave, ce qui révolte plus les creuseurs, c'est le fait que parfois, par leur expérience, ils découvrent certaines collines. Ils commencent à exploiter avec des outils rudimentaires. Dès qu'on apprend que cette colline a titré, Kinshasa vend, sert ça à un Chinois, sert ça à un Libanais, et on vient déguerpir. Ce sont les militaires qui viennent pour chasser les Congolais. Ce sont là les émeutes, ce sont là les casques que nous avons toujours, ce sont des barricades de routes que nous avons toujours vécues dans notre province. Donc nous dénonçons ces comportements-là. Donc nous pensons qu'il est important que l'État congolais accorde des moyens et une attention particulière à l'exploitation minière artisanale dans le sens de comprendre que c'est un secteur qui lui permet d'occuper la jeunesse congolaise et qui permet aussi à la vie économique de notre pays, parce que il faudrait pas qu'on se trompe. On a des statistiques qui font état de 20 à 30% de la production générale du pays vient de l'exploitation minière artisanale.
Maître Shadrach Moukad, je vous remercie.
C'est moi qui dis merci à la radio Okapi.
Notre invité, Maître Shadrach Moukad, s'entretenait avec Paul Mounanga et c'est par ici que nous mettons un point final à notre grande édition du journal parlé de 15h, coordonnée par Élisée Chikota Chivueta, supervisée par Thérèse Kankoun-Tamboué et mise en onde par Jean-Claude Nsialamouana. Merci pour votre attention soutenue.